l'écoute de RFI, 19h30 à Paris et Kinshasa, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et c'est l'heure de retrouver la première édition d'Afrique Soir de ce jeudi. Elle vous est présentée par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Dans l'est de la RDC, la situation reste tendue. Les combats entre l'armée congolaise appuyée par les groupes armés locaux et les rebelles du M23, soutenus eux par le Rwanda, se sont poursuivis vers la localité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Des combats qui ont provoqué, vous l'entendrez, de nouveaux déplacements de population. Au Burkina Faso, au moins une vingtaine de militaires tués selon plusieurs sources dans une attaque djihadiste à Séba, dans la province du Yaga. Attaque revendiquée par le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Au Gabon, le premier tour de la présidentielle fixé au 12 avril. C'est une étape clé vers la fin de la transition prévue en août prochain. Et puis c'est l'un des plus gros diamants découverts en République centrafricaine, près de 178 carats. Un diamant extrait dans le sud du pays à plus d'un millier de kilomètres de Bangui. Dans l'est de la RDC, des combats se sont donc poursuivis ce jeudi autour de la cité de Sake, située à une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale provinciale. Les forces armées congolaises et leurs alliés affrontent les combattants du M23, soutenus, eux, par l'armée du Rwanda. À Kinshasa, Pauline Azidi.
Les affrontements assez violents ont commencé aux alentours de 4 heures ce jeudi matin. Des bombardements venus des positions du M23 et des militaires rwandais en direction de celles des forces congolaises et de leurs alliés à Sake. Et les détonations ont été régulièrement entendues jusqu'à la ville de Goma. Les responsables de l'armée congolaise à l'est ont reconnu l'utilisation d'hélicoptères militaires en appui aérien aux soldats au sol et affirment que toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser et protéger la capitale provinciale. Selon plusieurs sources sécuritaires, des troupes de la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, et de la SAMI-DRC, de la Communauté d'Afrique centrale, ont été envoyées sur le front en soutien. Ces affrontements ont déjà provoqué d'importants mouvements de population. En effet, plusieurs camps de déplacés sont situés à l'ouest de Goma, le long de la route qui mène à Sake. On estime qu'il y a environ 600 000 déplacés dans les alentours de la ville, des personnes qui se sont dirigées vers le centre-ville. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et le président Félix Tshisekedi est lui rentré de Davos en Suisse ce jeudi. Il est à Kinshasa. Selon son entourage, il est tenu au courant de la situation sur le front, heure par heure. Le chef de l'État doit réunir demain matin un Conseil national de la défense ainsi que le traditionnel Conseil des ministres du vendredi. De son côté, le président de l'Assemblée nationale a écourté son voyage au Vietnam. Vital Kamerhe assistera demain à ces réunions. Les autorités congolaises appellent la population de Goma à ne pas paniquer et assurent que les forces armées congolaises contrôlent la situation. Goma, où la situation est donc restée tendue, on l'a dit, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusque dans la capitale provinciale. Des milliers de personnes ont fui de nouveau, quittant les camps de déplacés. À l'ouest, c'est un reportage à Goma d'Héritier Baraka.
Si la route principale Katindondosho, l'angoisse est palpable. Des colonnes de déplacés sont à pied, à moto ou en bus en direction de la ville. Alice et Kanyere, désespérés, nous racontent leur fuite.
Toute la population est sur la route et fuit. Il y a beaucoup de militaires aussi sur la route. Il y avait beaucoup de détonations et d'avions qui bombardaient là-bas. Nous fuyons les bombes et les balles et nous avons quitté le camp. Je n'ai pas de famille à Goma. Je vais seulement dormir devant un enclos avec mes 3 enfants. Que le gouvernement mette fin à cette guerre.
Aguma Banga, âgé d'une trentaine d'années, marche avec un matelas à la tête. Il a fui Sake et sa nouvelle de sa famille.
J'ai perdu toute ma famille. Les retrouver, ce serait un miracle. J'ai une femme et 5 enfants. Je ne sais pas où ils sont.
À Goma, des écoles et boutiques ont été obligées de fermer. Les autorités militaires du Nord Kivu ont appelé mercredi la population au calme. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Goma, où l'Institut français suspend ses activités, il reste fermé ce jeudi. Le concert de l'artiste Hergé Caniera, prévu ce soir, est annulé. L'Institut français qui indique, en raison de la situation sécuritaire, toutes les activités sont temporairement suspendues. Les billets pour les spectacles annulés seront intégralement remboursés.
RFI à Libreville, 104 FM.
Pardon pour ce chat dans la gorge. Allons quand même à Libreville où les Gabonais sont appelés aux urnes le 12 avril pour le premier tour de la présidentielle. C'est une étape clé vers la fin de la transition qui est prévue en août. Et à moins de 3 mois du scrutin, le pays est-il prêt pour cette importante échéance électorale qui doit permettre d'élire le futur président de la République pour les 7 prochaines années? À Libreville, Yves-Laurent Goma.
La date du 12 avril prochain n'est pas une grande surprise pour la classe politique et les Gabonais en général. Une rumeur orchestrée sur les réseaux sociaux, sans être démentie, annonçait déjà l'élection à cette période. Après le référendum du 16 novembre dernier, qui a permis d'adopter une nouvelle constitution, le ministère de l'Intérieur avait immédiatement lancé la révision de la liste électorale. L'opération démarrait le 2 janvier, prend fin le 31 de ce mois. Parallèlement, une commission s'est chargée de rédiger le nouveau code électoral. Celui-ci a été adopté par le Parlement dimanche dernier. Le texte non encore rendu public fixe, entre autres, les critères d'éligibilité à la présidence de la République. Il autorise notamment les militaires, les magistrats et les comptables publics à être candidats à toutes les élections. Si la Cour constitutionnelle ne retoque pas cette disposition, le général Brice Clotaire Oligingema, qui s'est emparé du pouvoir après le coup d'État du 30 août 2023, pourrait être candidat. Il est silencieux sur ses intentions, même si ses partisans appellent à sa candidature. Des leaders politiques et associatifs s'y opposent. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 18h passées de 36 minutes en temps universel. La CPI, la Cour pénale internationale, réclame des explications à l'Italie. Le chef de la police judiciaire à Tripoli, Osama Najim, est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il a été arrêté à Turin, en Italie, dimanche, avant d'être finalement libéré mardi par les autorités italiennes. Dans la soirée, il est rentré en Libye, à bord d'un avion affrété par le gouvernement italien, échappant ainsi à la justice internationale, et sa libération fait polémique. Ouda Ibrahim.
La CPI laisse entendre que l'Italie ne se coordonne pas pleinement avec elle. Elle affirme qu'elle lui a envoyé les informations sur Osama Najim en temps et en heure. La Cour cherche à savoir si les autorités italiennes ont bien pris les mesures pour l'extradition de cet homme à La Haye. Elle rappelle que tous les États qui ont ratifié le traité de Rome ont le devoir de coopérer pleinement avec elle dans le cadre de ses enquêtes et de ses poursuites. Selon le mandat d'arrêt de la CPI, Osama Najim al-Masri a tué, torturé et violé des détenus à Tripoli, des migrants comme des Libyens. En Italie, le gouvernement est sous le feu des critiques des partis d'opposition qui dénoncent une opération très opaque. Cette opposition s'étonne comment un homme accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI se sente tellement en sécurité en Italie. Giorgia Meloni, la présidente du Conseil, est appelée à s'expliquer devant le Parlement.
Et qui est donc Osama Najim, recherché par la Cour pénale internationale, cet homme plus connu sous le nom d'Al-Masri? Écoutons Virginie Colombier, les chercheuses rattachées à l'université de Florence. Elle répondait dans Afrique Midi à Nicolas Sûr.
C'est un personnage malheureusement assez connu, et connu pour des raisons très négatives. Pourtant, il joue un rôle important dans le système carcéral à Tripoli en particulier, parce qu'il est responsable de plusieurs centres de détention majeurs, et en particulier du fameux centre de Meitiga, et où depuis maintenant plus d'une dizaine d'années sont perpétrées diverses maltraitances, mais aussi des épisodes de torture, de meurtre, de viol. C'est des prisons en fait qui sont en partie sous le contrôle d'une force de sécurité qui a un rôle de plus en plus important, qui est une force avec une sorte d'affiliation idéologique, religieuse très conservatrice. Mais disons que la personnalité d'Al-Masri est bien connue dans ce monde-là. Et c'est évidemment un personnage qui est de ce même fait qu'il contrôle ces centres de détention et un important maillon du dispositif lié au contrôle des migrants qui sont incarcérés en Libye, dans l'Ouest en particulier.
Que lui reproche la CPI?
Le mandat d'arrêt qui a été émis un peu plus tôt au cours de ce mois indique qu'il est suspecté de crimes contre l'humanité et crimes de guerre qui ont été commis depuis février 2015, soit commis directement par lui, soit ordonnés par lui à des membres de cette fameuse force de sécurité dont je parlais précédemment.
Les forces spéciales de dissuasion connues sous le nom de RADA.
Exactement.
Alors, il assiste à un match de football entre la Juventus et Milan, en Italie. Il est interpellé par les services de police chargés des opérations spéciales. Et 3 jours plus tard, il est libre. Vice de procédure, comme on le dit officiellement à Rome, ou bien le gouvernement Meloni n'a pas voulu se fâcher avec son partenaire libyen?
À Rome, il y a une sorte d'imbroglio où les principaux responsables du gouvernement se rejettent la faute les uns les autres, parce qu'évidemment, ça fait un très mauvais effet d'avoir une personne qui est inculpée de ce type de crime par la CPI, qui fait l'objet également d'une notice rouge d'Interpol, qui a été libérée rapidement. Très clairement, il y a une tonalité très politique à cette affaire, et certains éléments de la presse italienne soupçonnent que derrière cette opération peu claire, il y a la volonté d'éviter de créer des problèmes avec les partenaires libyens, qui évidemment jouent un rôle absolument central dans les politiques de contrôle des frontières et de contrôle de la migration, qui sont au cœur du programme du gouvernement de Madame Meloni.
Virginie Colombier, chercheuse rattachée à l'Université de Florence. Au Burkina Faso, un détachement militaire ciblé par une attaque djihadiste cet après-midi à Séba dans la province du Yaga, dans la région du Sahel. Plusieurs dizaines de personnes militaires et civiles auraient été tuées et d'autres blessées et portées disparues, selon plusieurs sources. L'attaque a été revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe affilié à Al-Qaïda. Du côté des autorités burkinabées, toujours pas de communication officielle. Abdoulaye Diko.
Les terroristes ont attaqué vers 14 heures, selon plusieurs sources, et l'assaut a duré des heures. Première cible, le camp militaire à la sortie de Séba. Ensuite, les groupes armés ont fait irruption dans la ville, chef-lieu de la province de Yaga. 7 civils auraient été tués dans la ville, dont une femme et ses 4 enfants brûlés sous leur tente, nous dit une source locale. Et selon elle, l'unique station de carburant de Séba est le centre médical avec antenne chirurgicale incendiée, ainsi que plusieurs véhicules. Une vingtaine de militaires ont été tués, selon plusieurs sources contactées par RFI. Il y a plusieurs dizaines d'autres blessés ou portés disparus. Une autre source dans la zone parle de plusieurs militaires tombés et d'énormes dégâts matériels. Dans la soirée de mercredi, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, a revendiqué l'attaque et a déclaré prendre le contrôle total de la base de l'armée sans donner de bilan. Pour l'instant, aucune communication, ni de l'armée burkinabé, ni du gouvernement sur cette attaque. Cette ville de Séba est sous blocus de groupes terroristes depuis plus de 10 ans. Elle n'est ravitaillée que par convoi militaire.
Au Sénégal, 3 militantes féministes convoquées par la police hier fin décembre. Leur groupe avait annoncé vouloir organiser un sit-in seins nus pour alerter sur l'augmentation des violences faites aux femmes avant d'annuler cette manifestation. Mais leur convocation inquiète les organisations féministes. Elles dénoncent une tentative d'intimidation. Dr Ndeye Kadi Babou, médecin, est l'une des coordinatrices du réseau des féministes au Sénégal. Elle répond à Léa Lisa Westerhoff.
Nous considérons cette convocation comme une tentative d'intimidation visant à faire taire nos voix critiques en tant que féministes et en tant que lanceurs d'alerte sur les violences que les femmes, jeunes filles subissent dans ce pays. Dans cette stratégie-là, il y a plusieurs étapes que nous vivons déjà au niveau du Sénégal. C'est l'intimidation judiciaire avec cette convocation judiciaire qui est quand même assez abusive et qui a pour but d'épuiser psychologiquement et financièrement les militantes qui aujourd'hui sont là pour les femmes filles victimes. Mais il s'agit aussi de campagnes de diffamation que les femmes militantes féministes subissent avec des diabolisations, une manipulation de l'opinion publique. Mais également, c'est la remise en cause systématique de la légitimité des discours féministes avec une infantilisation du discours militant oublieux du plus important, c'est-à-dire qu'au Sénégal, sur les derniers rapports statistiques que nous avons de 2023, on sait qu'avant l'âge de 18 ans, 8 femmes sénégalaises sur 10 ont déjà eu à subir des violences.
Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 19h43 en Centrafrique, où l'on a découvert l'un des plus gros diamants du pays. Les autorités de Bangui ont présenté cette pierre exceptionnelle, un diamant de près de 178 carats. Il a été extrait dans la commune de Zako, c'est dans le sud-est du pays, à plus de 1000 km de Bangui. Charlotte Cossé.
Le président Touadéra lui-même est venu voir ce joyau. Sur une photo, le chef de l'État tient l'impressionnante pierre translucide encore brute. En cours d'expertise, ce diamant d'une qualité exceptionnelle exceptionnel, selon le ministre des Mines, Ruffin Benam Beltungu, et sans nul doute d'une très grande valeur, ajoute-t-il. Cette pierre se trouve actuellement entre les mains de l'administration publique, mais est bien la propriété du collecteur qui l'a ramené de Nzako, un propriétaire dont le nom n'a pas été révélé. Il y a quelques semaines, cette localité était encore située dans la zone rouge du processus de Kimberley, et l'exportation du diamant y était interdite. La présentation de la pierre à Bangui témoigne de l'effort de transparence et de traçabilité dans le cas de ce diamant, salue Paul Cresson de Beninga. Il est membre de la coalition pour la société civile du processus de Kimberley. Il espère qu'une partie des bénéfices de sa vente servira au développement de la communauté de Nzako.
Et dans son discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale, Faustin Archange Touadéra, le président, a précisé que 107 857 carats ont été produits en 2023, ce qui a rapporté environ 550 000 euros en taxes. C'est l'un des événements sportifs de ce début d'année. Le basketball et NBA Paris Games débutent ce soir à Paris. Premier des deux matchs délocalisés à l'Accor Arena de Bercy entre les San Antonio Spurs du français Victor Wembanyama et les Indiana Pacers du Camerounais Pascal Siakam. La NBA souhaite conquérir un public plus large après la France, le Royaume-Uni ou encore le Mexique. Peut-on envisager bientôt un match officiel de la NBA en Afrique? Victor Missistrano a posé la question au numéro 2 de la plus grande ligue du monde, le sous-commissaire Marc Tatum.
Un match de la NBA en Afrique est quelque chose que nous ambitionnons à terme, c'est certain. Nous avons déjà la Basketball Africa League, nous entrons dans la 5e saison avec des matchs dans 4 pays différents et c'est donc l'occasion pour les supporters d'assister à du basket de grande qualité, le meilleur du continent. Nous nous concentrons également sur l'accessibilité des matchs et des programmes de la NBA en Afrique et nous constatons que l'audience augmente. Certains des défis liés à l'organisation d'un match NBA sont énormes. L'un des points clés, ce sont les infrastructures et nous commençons à voir des investissements dans des installations de classe mondiale sur le continent, mais il faut aller plus loin. Les choses vont dans le bon sens, mais nous n'avons pas encore de plan immédiat pour jouer des matchs de la NBA là-bas, mais c'est certainement quelque chose que nous espérons pouvoir faire à l'avenir.
Connaissez-vous les bayas, ces bijoux que l'on porte autour des hanches, portés par les femmes la plupart du temps, sont faits de perles en verre, de noix, de bois ou de métal. Longtemps, ces bijoux ont été réservés à l'intimité du couple, mais en Côte d'Ivoire, une partie de la jeunesse les porte désormais comme un accessoire de beauté qu'il n'est plus nécessaire de cacher, non sans quelques réticences. C'est un reportage de Marine Jana.
C'est un secret de femme qui se transmet de génération en génération. On met d'abord les bayas aux petites filles en bas âge car ils sont supposés affiner la taille pendant la croissance. Mais une fois adultes, ils deviennent un puissant outil de séduction. Betty Conan, propriétaire de restaurant à Cocody Bonoumain, dit porter jusqu'à une vingtaine de bayas à la fois.
C'est pour séduire, on sent que tu es une femme. Ça excite ton homme. C'est toujours caché pour nous. Les femmes d'un certain âge, ça ne se montre pas, c'est dans la chambre. On cache, c'est dans la chambre, l'homme découvre. Mais ça dépend, les jeunes préfèrent montrer, le monde évolue.
Car pour la jeunesse abidjanaise, branchée et cosmopolite, les bayas sont désormais souvent désexualisés pour être utilisés comme un simple ornement, au risque d'un choc des générations, signale Marie-Hélène Banimbadio-Toussiama, qui tient un compte Instagram consacré à la beauté féminine dans l'audiovisuel en Côte d'Ivoire.
J'ai pas mal de jeans taille basse et du coup ça fait que les bayas en fait ressortaient de manière un peu instinctive. Comme si j'avais juste une belle ceinture, juste avec des perles, etc. Pour moi, c'était un ornement au même titre que mes bracelets, donc je le mettais un peu tout le temps jusqu'à ce que je me prenne plein de remarques, du style genre « Ah, mais ma chérie, il faut cacher ça, des tantis au marché. » J'ai commencé à le regarder aussi différemment et me dire « Ah, c'est pas forcément un bijou anodin. » Quand on est à la plage, j'ai l'impression qu'avec les bayas, ça passe mieux, je trouve. Et surtout aussi en soirée, qu'on est tous dans le noir, à chaque fois je me dis, bon c'est joli en soirée, juste je vais danser et ça va se voir un peu. Vraiment c'est dans ces deux contextes-là, je trouve qu'on les retrouve plus.
Mais les bayas permettent aussi de renouer avec la tradition, puisqu'ils sont investis d'une dimension symbolique et rituelle, souligne l'artiste et curatrice Lirame Ouattara, qui a choisi de porter les siens par-dessus ses vêtements.
Là je porte un baya de ma grand-mère, donc quand je le porte, pour moi c'est hégémonie matrimoniale. C'est un mode... Ma grand-mère, son bagage que je mets sur mes reins aujourd'hui dans cet environnement-là. C'est des bayas baoulés, c'est identitaire. Donc je revitalise l'héritage que ma grand-mère m'a passé parce qu'il reste pas dans mes tiroirs. Je porte ma culture. Donc c'est tout un bagage porté aux reins très simplement, montré
pour être partagé finalement.
Un héritage commun à la plupart des cultures ouest-africaines, puisque si le terme baya vient du malinké, le même objet est appelé binbin en wolof et aflema dans les langues akan. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Un reportage retrouvé sur notre site internet www.rfi.fr. À suivre ce soir sur RFI, Accent d'Europe. On vote ce dimanche en Biélorussie, dans ce pays dirigé par Alexandre Loukachenko, proche de Poutine. La plupart des opposants sont en prison où ils ont trouvé refuge en Lituanie voisine, mais des espions se sont infiltrés dans le rang, d'où l'inquiétude de ce député lituanien.
Nous devons tous faire en sorte que les Biélorusses puissent se libérer de l'emprise de Moscou. Mais il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a eu plus d'un cas où nous avons mis au jour le cas de Biélorusses en Lituanie qui travaillaient pour l'autre côté.
Accent d'Europe a écouté tout à l'heure à 20h10 ou en podcast sur le site d'RFI. À suivre également ce soir Couleur Tropicale avec une émission spéciale consacrée au rap ivoire, émission proposée par Christelle Youhou. On va écouter Didi B et Imra avec le titre DX3.
Toi tu es chemise ou toi tu es quoi, hein? Wow, hein, abattard, t'as pas dit à la boca. Elle a dit qu'on est maudit, mais elle veut la part du toga. Moi j'avais laissé la collab, c'est technique comme à la yoga. Elle veut billets en dollars, pour la cité la saga. C'est la saga, on est tout bas, tout ce qu'il raconte c'est des bobards. MH, c'est la collab, les tontines attachées, les foulards. Le son est sucré, Coca-Cola, c'est pas ton gars mais tu fais les collages. La petite est fâchée en colère, elle veut son argent de décembre. Elle se dérange mais on veut pas,
on veut pas,
les ça,
MH,
Moja,
on dit quoi,
c'est comment,
c'est toujours
soigné,
position
bizarre,
ce soir,
ah ouais.
J'arrive en pause, j'arrive en pétard. On va pas Kuma, elle connaît déjà. Dégâts, 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 dégâts. On va pas Kuma, elle connaît déjà.
À écouter ce soir dans Couleur Tropicale.
Dégâts, 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 dégâts.
RFI.
Et toute la rédaction d'Afrique Soir est déjà en train de s'ambiancer au générique de notre chauffeur de salle, Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sylvie et bonsoir à vous qui nous écoutez.
Alors dans un instant, on va découvrir le titre que vous avez sélectionné pour la séquence rétro du jeudi. Mais pour l'heure, c'est avec les Togolais Fofo, Scarfo et Lord Carlos que s'ouvre votre chronique certifiée Afroclub.
Oui, Fofo, Scarfo a l'habitude d'être toujours à contre-courant du mouvement musical en général. Il le prouve encore une fois avec le titre 3h03 qu'on va écouter, un extrait de son album Voyage sorti en 2021 mais qu'il continue pourtant d'exploiter. Si vous reconnaissez l'instrumental, c'est normal. Il s'agit du groupe de jazz Akale Wube avec Manu Dibango au saxophone sur le titre Ambessa. On apprécie la version de Fofo Scarfo et Lord Carlos, 3h03.
Excellent titre pour une entrée en matière. On va passer maintenant à l'apéritif avec le rappeur ivoirien Jeune Lion qui propose son cocktail musical Ginger Juice.
Oui, Jeune Lion qui ne manque pas une occasion de rappeler qu'il est né à Marcoury, un quartier d'Abidjan dont il est extrêmement fier. Le rappeur à la créativité débordante se réclame d'un mouvement New Wave, nouvelle vague. Notez qu'il a des origines allemandes, bien qu'étant franco-ivoirien, il a grandi sous l'influence de la culture Rastafari en Côte d'Ivoire, ce qui lui permet de faire usage de ses influences culturelle dans sa musique métissée. Et c'est avec le single Ginger Juice qu'il lance son année discographique 2025.
Que ça sent la Cali dans les sas, avec Platine et Obamasa. Dites-leur de compter, de mettre Wari dans le sac, hein. Ouais, avec besoin de visa. J'ai 80 000 dans la visa, hein. Le jeune n'a pas changé de visage, mais dans le ciel, elle saute, je pas la NASA, hein. Elle fume pas, elle va rouler ma cam. J'ai allumé un route quand elle m'a déclaré sa flamme. Et elle est sainte, elle dit qu'elle veut garder ma cam. Yaouba, j'ai fini, j'ai l'escam. Impossible que je vienne lier en face à son âme. Même si j'ai tout le dire, je vais jamais changer ma gamme. Je suis prêt pour la guerre, tu sais que j'ai bien utilisé ma lame. Même si que j'ai resté focus, si je passe t'es en low cost. Je suis toujours à mon poste et dites-leur que j'ai toujours l'astuce. Même si que j'ai resté focus, si je passe t'es en low cost. Je suis toujours à mon poste et dites-leur que j'ai toujours l'astuce.
C'est très différent de ce que l'on peut entendre dans le rap actuellement. On va passer à la traditionnelle séquence rétro du jeudi. Et vous avez mis la barre très haut, Hervé, encore une fois, avec Césaria Évora.
Oui, et j'ai choisi le morceau Petit Pays de la diva aux pieds nus. Éternelle voix de Mindelo et du Cap Vert. Sa rencontre avec son producteur José Da Silva, lui, aussi originaire de Mindelo, changera sa vie à jamais. D'ailleurs, le surnom Diva aux pieds nus est le nom de son premier album enregistré à Paris en 1988. Sa morna s'exprime au monde dans le morceau Petit Pays, qui est la première piste de l'album Césaria, sorti en 1995.
Là nasceu, põe une estrella qui cata brillant, lina mar, põe une areia qui cata moyen, espaillant des mondes fora, sauvage mar, terra, pau, feu d'amour. Te morna tem coladeira, te vassa cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rotimar, terra pou cheio de amor.
Cette chanson n'a décidément pas pris une ride, hein, et c'est déjà le moment de nous quitter, mon cher Hervé. Retour au temps moderne avec le chanteur guinéen Limo et sa chanson Djogo.
Lassimo Mansale, plus connu sous le nom de Limo, a dévoilé Djogo le 17 janvier dernier, une composition de Wisiz qui fait entrer Limo dans la nouvelle année. Dans Djogo, qui est un titre afro-pop avec des influences dancehall, Limo exprime son admiration pour une femme forte et indépendante, un peu comme vous, Sylvie. Et le rythme entraînant invite à danser, alors on y va.
Uno, dos, tres, je suis venu choquer comme Sosa. Si je veux finir dans Ferrari, je dois devenir Veloso.
Et c'est avec Limo que l'on va refermer cette page musicale certifiée Afro Club, dont la sélection est déjà disponible sur RFI Musique.
Oui, je vous invite à vérifier sur RFI.fr et je serai de retour mardi prochain en direct de Conakry. Je vous ferai revivre l'ambiance du concert de Jupiter Da Vibe de ce samedi 25 janvier au stade Petit Souris de Nango. Et ce sera Zéphirin Quadio à la présentation. Salut Sylvie.
Salut. Que se referme cette première édition d'Afrique Soir. Merci à toute l'équipe, merci à vous de nous avoir suivis. Adrien Delgrange est déjà prêt, il vous attend pour le prochain journal sur la radio du monde. Merci de votre fidélité, bonne soirée à l'écoute des RFI.
Podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard. Un mois après la chute du régime de Bachar al-Assad, le 8 janvier 2025, RFI émettait en direct de Damas. Comment se prépare-t-on à une telle délocalisation? Quels sont les défis éditoriaux et humains? Julien Coquel-Rohem partage son émotion et les coulisses de ce moment.
Témoin d'actu avec Alexandra Cagnard, tous les samedis à 19h41 sur RFI et en podcast sur RFI.fr.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Question de femme, la santé cardiaque au féminin, infarctus du myocarde, AVC, hypertension artérielle, un cardiologue répond aux questions des auditrices.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.